la place au professeur Anne-Marie Hergis, qui est professeur de neuropsychologie du vieillissement à l'Université Paris-Descartes. Elle va nous parler de la prise en charge non médicamenteuse.
Merci. Il y a des trucs subtils à faire, mais c'est bon. Voilà, donc je voulais remercier, je remercie encore Madame Sophie Charles de nous avoir soutenus dans ce projet, Monsieur Ferreira Merdawala Yalimapo de nous honorer de sa présence. Alors malheureusement, il n'était pas prévu que je parle de l'adaptation de tests aujourd'hui, mais de prise en charge, mais s'il reste du temps, ça sera avec grand plaisir, parce que ça fait partie de mes grands sujets d'intérêt, comme vous le savez. Voilà, donc je vais vous faire aussi un panorama, donc je vais essayer de parler, de faire un exercice de vulgarisation de la plus grande qualité. Les interventions non médicamenteuses, donc prendre en charge les troubles de mémoire, du comportement, de l'humeur de patients atteints de maladie d'Alzheimer, se développent de plus en plus, soutenues par des recommandations de la Haute Autorité de Santé, puis des différents plans Alzheimer et maladies neurodégénératives. Donc je vais vous faire un petit panorama de ces prises en charge. Donc là, simplement, on peut voir qu'il y a différents types d'approches, des approches dites cognitives, où on va travailler sur la mémoire. Donc ça, c'est plus le travail des psychologues spécialisés en neuropsychologie, de travailler soit en groupe. Donc ça s'adresse aussi à différents stades, je dirais à chaque fois, de la maladie. On peut aussi proposer des prises en charge à des personnes âgées. J'ai fait même des ateliers ici en Guyane, près de retraités, de CASEDF et du CERPAG, pour des personnes âgées qui veulent maintenir leur forme. Et j'utiliserai le terme de réserve cognitive, ce qui veut dire que c'est avoir des activités stimulantes, des activités de loisirs, des échanges, une vie sociale, de l'activité physique, qui permettent d'augmenter donc les capacités du cerveau à compenser en cas de difficulté. Et donc ça peut s'acquérir à tout âge. Donc on dit souvent que c'est lié au niveau d'études, c'est certes lié au niveau d'études, mais pas que. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire tout au long de sa vie, après la retraite, et surtout ne pas rester seul, rompre l'isolement et faire des activités qui plaisent et qui stimulent. Je donnerais pour exemple une personne âgée dans ma consultation qui m'avait dit, on m'a dit que c'était bon pour la mémoire de faire des sudoku. Je déteste les sudoku, est-ce que vous pensez que je devrais en faire? Alors j'ai dit non, si vous détestez ça, c'est pas la peine, trouvez des activités qui vont vous plaire, qui vont vous donner envie de continuer. Alors, dans ces prises en charge cognitives, on peut faire des activités de groupe qui sont plus utilisées ou proposées dans les EHPAD, à des patients qui sont à des stades plus modérés, plus avancés de la maladie. Des prises en charge cognitives individuelles sont intéressantes pour travailler la mémoire ou d'autres fonctions du cerveau, comme je vous le dirai, et qui tiennent compte, maintenant que vous avez eu la présentation de la maladie d'Alzheimer, de l'examen neuropsychologique et des troubles du comportement par mes collègues. Donc on va voir quel type de fonction cognitive ça peut cibler. Alors il y a aussi ce qu'on appelle des interventions psychosociales, comme la réminiscence, donc se rappeler à l'aide de photos ou d'odeurs ou d'autres matériels, des souvenirs anciens. Je ne vais pas toutes les passer en revue là. La thérapie par présence simulée, lorsqu'il y a des comportements d'agressivité de patients, certains leur proposent d'écouter des vidéos ou des enregistrements de paroles de leurs proches pour les rassurer. La thérapie assistée par l'animal, des activités de chant, cuisine, thérapie par le jouet. Et puis, je parlerai des thérapies sensorielles. Et je vous présenterai aussi des projets qu'on a menés aussi avec M. Abatucci, qui m'a fait le plaisir de venir. Donc, avec du théâtre et puis de la danse et du chant. Donc là, c'est plus que sensoriel. Là, c'est vraiment apprendre des techniques artistiques, pour pouvoir les utiliser après et Et ça, on va voir que ça a des effets très positifs sur la mémoire, sur l'attention, sur le langage, sur l'humeur, sur l'estime de soi. Et puis, évidemment, il y a aussi l'entraînement physique, l'activité physique. Donc, je laisse mon collègue d'après, qui en parlera très bien, ou monsieur de la Doucette, pour vous montrer l'importance aussi de l'activité physique. Alors, les troubles de mémoire, je vais vous parler de ce qu'on peut faire avec des personnes qui ont des troubles de mémoire, qui sont les déficits, les problèmes les plus fréquents dans la maladie d'Alzheimer, qui compromettent l'autonomie des personnes. Et le fait de pouvoir prendre en charge ces troubles de mémoire va permettre de prolonger l'autonomie des patients, maintenir leur dignité, ça c'est quelque chose de très important, et ça peut retarder le moment où les patients devraient être replacés en institution, parce qu'il arrive soit un moment où la famille ne peut plus prendre en charge parce que c'est trop difficile, trop douloureux, trop fatigant. Alors, je vais vous montrer quelques exemples juste de prise en charge de troubles de mémoire. Donc ici, ça montre l'intérêt de l'encodage moteur. Encoder, c'est enregistrer l'information à retenir. Donc là, il s'agissait dans cette expérience de retenir des phrases d'action. Là, on voit ici ce que font les personnes âgées sans troubles de mémoire. Ici, les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et là, on voit que lorsqu'on demande de rappeler simplement les actions aux patients, sans encodage moteur, le rappel est très faible. Lorsqu'on leur demande de faire l'action qui est écrite sur les phrases, et après on leur donne l'indice de l'objet, on voit que là qu'on passe de 2,5% à plus de 85% de réussite. Donc c'est des pistes intéressantes qui s'appuient sur des capacités préservées pour améliorer les capacités de mémoire des patients. Alors, autre exemple de prise en charge, c'est ce qui est basé sur ce qu'on appelle l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'on va aider le patient à enregistrer des informations, mais sur un mode visuel, utiliser ses capacités à se représenter mentalement des images, et puis les associer à une image absurde qui peuvent être drôles, et du fait que c'est absurde, on les retient mieux. Et on les retient mieux si on les fabrique soi-même. Alors, je vais vous donner un petit exemple, je vais vous faire le petit test. On s'assure d'abord que la personne est capable de se représenter les objets visuellement, sinon on va dans le mur. Alors, par exemple, est-ce que vous savez combien de dents a une fourchette? Très bien. Donc, quelles sont les plus grosses roues d'un où sont, pardon, les plus grosses roues d'un tracteur? À l'avant ou à l'arrière? Voilà, au Québec, on sait tout ça. Voilà, une fois qu'on s'est assuré des capacités de la personne à se représenter des objets, on va faire travailler sur la mémoire visuelle, donc visualiser des détails, l'orientation, les couleurs quand il y en a, etc., pour mieux enregistrer les informations. Et quand il s'agit de retenir des mots, on va comme ça pouvoir enregistrer à la fois visuellement et verbalement, parce qu'on a le mot et on a l'image. Et ensuite, on peut travailler sur des paires de mots qu'on va associer en image absurde. Donc là, je me suis servi d'un peintre connu qui m'a bien inspiré. Donc par exemple, si on veut retenir bougie et serpent, donc là, on donne l'exemple au patient, parce qu'après, il devra les faire lui-même. Donc on a ce tableau de Magritte qui montre bougie, serpent. Et ensuite, on peut l'utiliser. Donc on va demander au patient de créer lui-même ces images absurdes. Je l'ai fait ici dans les ateliers. Ça a très bien fonctionné. J'ai des personnes âgées qui me disent qu'ils l'utilisent toujours, et ça a en plus un côté ludique qui fait que c'est avec plaisir qu'ils apprennent ces stratégies. Et ça fonctionne aussi chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer, au stade léger jusqu'à modéré, on a pu le voir. Alors, autre type de prise en charge qui intéresse beaucoup des personnes âgées, parce que beaucoup se plaignent, même des personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer, mais après 50 ans, en général, on se dit j'arrive plus à retenir des noms de personnes, pas les noms de mes enfants ni de mes petits-enfants, mais des noms de l'entourage. Donc il y a une méthode qui s'appelle nom au visage, qui est utilisée depuis un certain nombre d'années, qui se déroule en trois étapes. Alors, par exemple, ici, vous avez les exemples, c'est toujours facile. Après, parfois, ça peut être plus compliqué de l'adapter à la vie réelle, mais on peut toujours trouver des moyens. Alors, ici, vous avez Monsieur Falise. Alors, quel nom concret vous fait penser à Falys et qui pourrait être utilisé? Ah, vous avez sauté une étape. C'est celle d'après. Donc c'est valise, Falys. Donc après, on repère une caractéristique du visage. Donc effectivement, c'est la moustache. Et on demande à la personne de se représenter dans une image aussi absurde ou ludique la moustache qui devient un élément, la moustache qui devient la poignée de la valise. Alors ça paraît compliqué, mais en fait, ça fonctionne très bien, même avec des patients. Et on a eu des exemples de patients qui ont pu retenir, comme ça, même une dizaine de noms de personnes, de soignants, etc., qui n'arrivaient pas à retenir. Parce qu'après, on présente la photo, ils doivent se représenter l'objet, donc la valise, remonter à la moustache, et puis, grâce à la valise, retrouver le nom Falys. Voilà, c'est des exemples. Une autre méthode qui est utilisée, qui existe depuis l'Antiquité, et aussi qui a un certain intérêt pour retenir des informations ou des listes de mots ou des courses à faire, c'est représenter, associer des mots ou des noms à différentes parties de son appartement. On choisit des pièces, on choisit des meubles et on va associer des mots à différents meubles. Et après, on va parcourir mentalement cet espace-là pour retrouver les mots qu'on a déposés. J'avais l'exemple d'un patient, d'un neuropsychologue russe dans les années 60 qui retenait des dizaines et des dizaines de listes de mots comme ça, et spontanément, sans avoir appris aucune technique, quand on lui demandait comment il faisait pour tout retenir, il disait je parcours une rue de Moscou, sur ma première maison je mets un mot, sur l'arbre après je mets un deuxième mot, etc. Et quand on me dit quels étaient les mots de la liste que je vous ai appris tel jour à telle heure, il dit je parcours mentalement la rue et je retrouve tous les noms. Alors, ils ont fait ça des dizaines et des dizaines de fois, et sauf une fois, il n'a pas retrouvé un nom. Alors, le psychologue lui a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, le soleil a tourné, il y avait de l'ombre, je n'ai pas réussi à lire le mot sur le mur. Mais voilà, donc c'est des stratégies qui fonctionnent aussi pas mal. Et on a montré chez des personnes âgées qui, lorsqu'ils réussissent à faire cet exercice-là, et quand on fait des études d'IRM, on voit des activations du cerveau après cet apprentissage dans des régions proches de l'imagerie mentale, c'est-à-dire des régions qui permettent de se représenter visuellement des objets. Alors, maintenant, je vais vous parler rapidement de ce qu'on peut faire avec des fonctions exécutives. Comme on sait, c'est la capacité à programmer des actions, à planifier des choses, à inhiber des comportements ou des informations non pertinentes. Dans la vie de tous les jours, c'est gérer son budget, conduire dans des villes où c'est compliqué, jardiner, parce qu'il faut bricoler, parce qu'il faut planifier ce qu'on va faire, etc. Donc, les familles des patients disent souvent que le parent proche n'arrive plus à faire ces choses qu'il faisait auparavant. Préparer un repas, conduire en ville, etc. Donc, on peut proposer des prises en charge aussi sur des stratégies d'organisation, sur des aspects de la mémoire à court terme, de mémoire de travail qu'a montré le professeur de TOEFL, avec de retenir des suites de chiffres, par exemple, dans des temps très très courts. Et aussi, par exemple, dans les jardins thérapeutiques que M. Victorin est en train de faire sa thèse sur ce sujet, donc, parce que ça nécessite de planifier les choses, de s'organiser. Et dans le cas des jardins thérapeutiques, ça permet aussi de travailler sur la mémoire, puisque c'est ce qui se prépare à l'ébène, parce qu'il y a des balades sensorielles, on peut travailler sur des souvenirs, la réminiscence, la bâtie, donc on peut travailler sur les savoirs de plantes médicinales, à quoi ça sert, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec les jardins thérapeutiques. Alors, pour les fonctions exécutives, je vais vous parler d'une mémoire que peu de gens connaissent, la mémoire prospective, parce qu'on la connaît depuis pas très longtemps, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est se souvenir de choses qu'on doit faire dans le futur. Se souvenir qu'en sortant du travail, il faut acheter du pain ou de la viande en passant dans la boutique concernée, ou se rappeler qu'il faut sortir un gâteau du four dans 20 minutes, sinon il va brûler. Donc ça, c'est la mémoire de choses à faire dans le futur. et qui est atteinte très précocement dans la maladie d'Alzheimer, puisque ça met en jeu à la fois la mémoire et puis donc ces fameuses fonctions exécutives, hein, puisqu'il faut savoir arrêter une activité en cours pour faire l'action prospective et reprendre, donc ça demande de l'organisation. Et ça, c'est... Et on peut travailler, donc là, je vous passe des expériences qui ont montré que dans certaines circonstances, et quand on utilise des informations chargées en émotions, ça fonctionne mieux. Et en termes de prise en charge, on a montré aussi des effets très positifs chez des patients Alzheimer, où on peut utiliser des stimuli donc émotionnels. Donc là, vous voyez, ça c'est plutôt négatif, ça c'est plutôt positif et ça c'est neutre. Et dans une vidéo qui simule un circuit dans un centre commercial, et on voit que ici, ce sont les prises en charge, hein, par les phrases ou autres prises en charge. Il faut générer des phrases pour relier l'indice et l'action, hein, se souvenir si on passe devant le bureau de tabac d'acheter une bouteille d'eau, par exemple. Et là, c'est sans prise en charge en bas, donc on voit un effet positif. Autre manière d'intervenir sur ces problèmes de mémoire pour se souvenir de choses à faire, c'est utiliser des smartphones. Donc c'est une étudiante en thèse qui s'occupe de ça en ce moment, à l'aide d'un agenda partagé sur smartphone, partagé avec l'aidant. C'est-à-dire que l'aidant peut intervenir, peut rajouter dans l'agenda des choses à faire ou donner d'autres informations ou partager des photos, des choses qui vont plaire aussi aux patients. Et ça, c'est là, on en est au tout début, mais les premiers résultats sont très encourageants, hein, puisqu'on a des patients qui veulent continuer, hein, qui n'utilisaient pas forcément beaucoup le smartphone avant et qui veulent continuer. Et ça implique aussi, ça soulage aussi le poids et même la dépression de l'aidant, parce qu'il a une participation active. Donc il peut aider son proche, il peut intervenir et puis l'accompagner pour mieux comprendre, hein, les difficultés, hein, du patient. Alors je vais faire un petit passage par les prises en charge à médiation artistique, donc qui ne sont pas, dans ce cadre de ce que je fais, ce n'est pas de l'art-thérapie classique. Je vais... Comme exemple, hein, vous parlez de la musique et du cerveau. Pourquoi la musique a plus d'effet aussi chez les patients? Parce que vous voyez que ça met en jeu les deux hémisphères, hein, beaucoup de régions dans les deux hémisphères cérébraux, beaucoup plus que le langage. Donc s'il y a des lésions dans le cerveau, il peut y avoir plus de compensation par la musique. Et la musique, évidemment, véhicule les émotions, et les émotions favorisent la mémorisation. Et puis ça joue sur le bien-être, évidemment, hein, sur le plaisir, le bien-être, qui est très important, hein, pour se sentir bien quand on vieillit, quand on est malade. Alors vous voyez, je résume ça en une diapo, c'est utiliser à tous les âges de la vie. Ça peut être fait de manière active, c'est-à-dire que le patient va jouer de la musique ou chanter, ou ça peut être fait de manière réceptive, c'est-à-dire qu'on écoute de la musique. Là, on est plus dans la relaxation, hein, se sentir bien. Simplement un petit mot pour vous dire, là j'avais vu ce documentaire qui est absolument extraordinaire, où on voit dans un EHPAD aux États-Unis un assistant social qui, à l'époque c'était des iPods, hein, qui fait écouter de la musique à des résidents qui étaient grabataires, qui ne bougeaient plus, et pas n'importe quelle musique, hein, c'est ça qui est important, c'est de la musique qu'ils aimaient écouter quand ils étaient jeunes, parce que ça leur rappelle des souvenirs, ça leur donnait du plaisir, etc. Et on voit les changements de comportement, hein, le bonheur, et puis même la mobilité qui revient à ces patients-là. Donc, petit message à retenir, c'est très important aussi de faire écouter de la musique aux patients atteints de maladie d'Alzheimer, mais de la musique qu'ils aiment, hein, qui leur rappelle des bons souvenirs. Et généralement, ces bons souvenirs, c'est plutôt quand ils avaient, on dit, c'est plutôt autour de 16 ans, hein, les premiers émois, les premiers, un peu l'autonomie, etc. Alors ça, je ne vous passerai pas la petite vidéo parce qu'on ne va pas avoir assez de temps, mais c'est pour vous montrer les activations du cerveau, hein, quand on écoute là du tango. Vous voyez, ça s'allume. Ça, si je vous fais écouter le tango, ça va s'allumer dans tous les sens. Donc, ça, c'est simplement écouter de la musique. Et quand on fait de la danse, donc, ça va activer aussi encore plus de choses. Donc, là, il y a un chorégraphe, hein, par exemple, qui a travaillé en EHPAD, même avec des personnes en fauteuil, et qui ne pouvait pas beaucoup bouger, et qui a pu apprendre à danser, à faire des mouvements. Et maintenant, c'est aussi utilisé, on utilise beaucoup aussi les, le tango. Hein. Le tango, c'est très répandu depuis l'Argentine jusqu'en Europe occidentale. Et on voit des effets très positifs sur des patients parkinsoniens qui voient l'amplitude de leur mouvement augmenter, par exemple, et des patients Alzheimer. Et puis, la musique, si on compare l'exercice physique qui est très bénéfique et la danse, on peut voir que la danse, comme l'activité physique, va favoriser la repousse de neurones dans ces fameux hippocampes dont parlait le professeur Toffol. Et chez ceux qui font de la danse, ça active des régions supplémentaires. Parce qu'il faut retenir ce que les chorégraphes appellent des phrases chorégraphiques, donc mémoriser des enchaînements de mouvements. Alors la peinture, donc ça c'est une illustration, je vais passer vite, ça c'est des ateliers peinture qu'on a fait à Cayenne et à Macouria avec John Liafo, hein, des patients qui n'avaient jamais peint, qui ne savaient pas dessiner, qui ont fait des choses extraordinaires, qu'on a exposées là ici à l'encre. Ils étaient extrêmement fiers, hein, de pouvoir montrer à leur famille, à leurs amis ce qu'ils pouvaient faire. Et puis le théâtre, donc les ateliers théâtre qu'on a proposé depuis d'abord à Paris et puis en Guyane depuis quelques années. Donc il y a eu 4 spectacles à Paris, 3,5 en Guyane. On va faire la deuxième moitié bientôt ici à Saint-Laurent, si on avait été interrompu par des circonstances sanitaires que vous connaissez. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec à la fois des patients et des personnes âgées sans troubles cognitifs pour ne pas enfermer les malades entre eux. Tous les patients sont impliqués de la même manière. Ils ne vont pas être plus épargnés, entre guillemets, parce qu'ils sont malades. On va les solliciter sans dépasser certaines limites, évidemment, hein, dans le respect de ce qu'ils peuvent faire. Et ce sont des ateliers de plusieurs semaines. La partie scientifique, c'est évaluer avant et après les fonctions, la mémoire, l'attention, le langage, les fonctions exécutives, l'humeur, est-ce qu'ils sont moins déprimés, leur qualité de vie, leur estime de soi. Et puis on fait un spectacle. Donc le spectacle, c'est la cerise sur le gâteau, même si au début ça leur fait peur, mais ils ont énormément de plaisir à se produire sur scène. Ça, c'est un exemple, hein, de l'amélioration de la mémoire, hein, chez une patiente. Donc là, c'est... Bon, ça se passe de mots. Là, je vais passer, on voit très bien. Alors, je vais passer là. Donc là, ce sont les affiches des spectacles à Paris et puis en Guyane. Donc, il manque le quatrième, hein, qui va bientôt, je ne déflorerai pas le nom du futur spectacle. Mais ça sera pour bientôt. Ça, je vous repasserai après s'il nous reste un petit peu de temps. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de son. Alors... Les artistes de Paris que je remercie, les artistes de Guyane que je remercie également. Donc ça, c'est les spectacles passés, et là, on a les spectacles en cours, avec Serge Batucci, Saint-Laurent, Francky Amété de Saint-Laurent, et Lincia Piver, qui va revenir à Saint-Laurent, je l'espère, hein, qui fait du chant. Voilà, alors les activités physiques, je vais passer très vite parce que mes collègues vont en parler. Juste pour vous dire qu'il y a un projet qui vient de démarrer, lancé par France Alzheimer, sur le ping-pong. Parce qu'on s'est dit que le ping-pong, ça peut avoir des effets positifs sur l'organisation temporo-spatiale des patients, ça permet de mieux oxygéner le cerveau, travailler sur la concentration, etc. Et donc, il y a un projet qui vient d'être lancé, de ping-pong, à Paris, avec France Alzheimer. Juste une petite chose aussi sur des jeux de société. Bon, ça, c'est pas forcément ce que font les neuropsychologues, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire en famille, hein, pour maintenir le lien intergénérationnel. Donc ça, je vous ai ramené ces diapos parce que... J'ai vu des résultats très intéressants de japonais et de chinois sur le jeu de Go, qui est un jeu stratégique. Donc ça permet de travailler la mémoire, les fonctions exécutives, etc. Et on voit des améliorations, hein, dans le cerveau aussi quand chez ceux qui pratiquent le Go. Alors ce sont des règles simples. Après, on peut choisir de faire des petits tableaux. pour que ce soit pas trop compliqué pour les patients. Alors, on peut faire avec des jeux plus adaptés à la Guyane. Hein. Je sais que les Guyanais aiment beaucoup jouer au domino, aux cartes, etc., au Scrabble. Et pour finir, je vais vous présenter aussi là, ce qu'on pourra faire dans le futur, les nouvelles technologies. Donc ça, c'est des choses qui se font dans mon laboratoire à Paris, avec des robots. Hein, le phoque paro qui est très doux à toucher, qui répond un peu quand on le caresse, qui cligne des yeux, etc. D'autres types de robots pour différents types d'activités que je ne vais pas détailler ici. Mais ceux qui sont intéressés peuvent me dire, j'enverrai des articles. Donc voilà, encore d'autres. La directrice de mon labo adore travailler avec les robots. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de types d'interventions avec ces robots. Et puis, pour finir, quelque chose qui se développe de plus en plus avec des patients Alzheimer, aussi bien pour évaluer les déficits cognitifs, voire les capacités préservées, également faire de la prise en charge. Vous voyez que là, on a des personnes âgées qui ont l'air de vraiment apprécier hein, de leur casque de réalité virtuelle. Donc on peut proposer plein de choses maintenant et de plus en plus hein, pour la prise en charge des personnes âgées avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est un petit peu l'avenir aussi. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans ces projets à Paris et en Guyane.
Merci, professeur Anne-Marie Hergis. Alors, pareil, je vous repasse la parole, messieurs, dames. Si vous avez des questions, c'est maintenant.
Merci. Là, je vais parler pour les aidants un petit peu. Là, je sais, on croit souvent connaître nos proches, alors qu'en réalité, on ignore une grande partie de leur vie. Alors, lorsque la personne est diagnostiquée au début, on a créé, nous, ce qu'on appelle un carnet de passage. C'est-à-dire que la personne n'est pas encore en perdition, elle a encore ses facultés qui fonctionnent, et on se met en tête-à-tête avec elle, et sur ce carnet, on note ses couleurs préférées, sa musique préférée, ses plats préférés, tout ce qu'elle aime. Comme ça, lorsque la personne ne sera plus en état de choisir elle-même, on pourra lui mettre ce qui lui convient. Et donc, on a mis ça en place, et ça fonctionne très bien.
Oui, ben ça, je veux bien croire. Et ça, c'est utile aussi pour la musique, hein, parce que sur les bienfaits de la musique, tout ça, je vous disais, essayer de retrouver avec les dents, et puis aussi les frères et sœurs, ou d'autres des contemporains de l'âge, de savoir quelle musique ils aimaient, parce que ça procure beaucoup de plaisir. On voit dans le documentaire, par exemple, un patient qui est comme ça, grabataire sur son fauteuil roulant, et puis dès qu'on lui fait entendre du jazz, hop, il se redresse, il se met à chanter et tout. C'est vraiment un autre patient qui jette son déambulateur, qui se met à danser, enfin, c'est alors qu'il était grabataire. Donc c'est très important, effectivement, de noter les choses qu'ils aimaient faire.
Je vais vous citer un exemple. On a un monsieur qui est arrivé. On discute toujours avant avec ce qu'on appelle la famille pour connaître un petit peu le passé de ce personnage. Et on a posé plein de questions. Puis on le voyait toujours. Il était replié sur lui-même. Il n'était pas bien. Et on a recherché dans ce qu'il faisait auparavant. C'était un violonneux. Un violonneux, c'est un gars qui jouait du violon dans les balles, dans le temps et tout ça. Et on a demandé à la famille de ramener le violon. Alors il y avait un vieil étui. Les cordes étaient cassées, tout ça. Et on l'a mis devant ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il a caressé ça comme un objet précieux. Il s'est redressé, il l'a ouvert, il l'a touché, et ainsi de suite. Les cordes étaient cassées. Il a commencé à le prendre, et puis il a commencé à jouer. Ça jouait faux, mais il jouait. Il s'était réveillé. Donc, des fois, c'est pour ça que de connaître correctement ce qu'on appelle la vie de la personne peut aider, justement, à la maintenir dans le monde actuel.
Tout à fait. Alors, il y a dans les ateliers de théâtre hein, que l'on fait, avec la passion, on travaille aussi sur les récits de vie. C'est-à-dire que alors, quand on a la chance d'avoir un couple aussi dans ces ateliers de théâtre, hein, l'aidant, un conjoint, peut aider ou valider les souvenirs. Et ce que l'on voit, c'est qu'à chaque séance, le patient va rappeler de plus en plus de détails précis de ses souvenirs qu'il évoquait en quelques phrases au début. Et quand on joue sur scène, on avait une des patientes qui même mimait, elle était tombée à l'eau au-delà du cercle polaire, elle vivait dans les îles de Fauten en Norvège, et puis elle racontait la fois où le fils du cordonnier, ça je m'en rappelle, hein, l'avait poussée dans l'eau, et puis elle se sentait tirée vers le fond, puis elle commençait de plus en plus à rappeler des souvenirs et puis à mimer ce qu'elle avait vécu. La fois où on l'a donné le plus de détails, c'était le jour du spectacle.
On a demandé aussi, pour vous donner un autre exemple, pour faire intervenir aux activités les bénéficiaires, on a demandé à chaque personne touchée par la maladie, en début de maladie, de nous dire, par un mot, comment ils ont perçu ce diagnostic qu'ils étaient touchés par la maladie. Donc on a eu peur, crainte, inconnu, et ainsi de suite, tout ça. Et d'autres qui avaient un stade un peu plus évolué, qui nous disaient espérance, secours, main tendue. Et avec ça, avec chaque mot, on a dit on va faire un tableau collectif. Et on a fait un tableau collectif, et par exemple pour la crainte et la perdition, ils ont décidé de dessiner une cascade. Quand il y avait un peu de, disons... qu'ils avaient apprivoisé un petit peu ce qui leur arrivait, ils ont demandé à voir un rocher.